enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais maintenant ouvrir la parole de Dieu avec vous dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Je voudrais vraiment remercier tous ceux et celles qui, tout au long de l'année, nous soutiennent dans la prière, nous soutiennent par leur présence, nous soutiennent par leur action, nous soutiennent également par leurs finances. Merci de tout cœur. Cette année doit être une grande année puisque la construction devrait démarrer et elle démarrera. Donc priez pour cela, prenez déjà les bonnes habitudes. Une personne en emmène une autre, ça évite une voiture de plus. Ceux qui ont l'occasion de prendre le tram, habituez-vous à le prendre. Et puis vous verrez que je suis convaincu qu'après la construction, nous aurons encore de la place sur le parking parce que vous aurez pris tellement de bonnes habitudes que ça aura libéré des places supplémentaires. Je voudrais quand même dire que nous avons eu une bonne surprise et j'ai une bonne nouvelle. Probablement que nous allons pouvoir, malgré ce que nous faisons, agrandir le parking et sur un côté qui était vraiment une surprise pour nous. Alors, je bénis Dieu pour ceux qui prient pour cela. Le Seigneur vous a entendu. Examinez-vous vous-même, dira l'apôtre Paul, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Et je m'arrêterai là ce matin. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Nous venons de terminer une année et d'en commencer une nouvelle. Et traditionnellement, en fin d'année, eh bien, on fait un bilan pour constater ce qui va bien, ce qui va moins bien, et surtout pour prendre de bonnes décisions afin que l'année qui vient puisse entièrement changer, n'est-ce pas? Et j'en vois qui me font comme ça. D'un air désabusé. C'est la xème année que nous prenons des décisions et c'est également la xème année que nous devons nous rendre compte que sur un grand nombre de décisions prises, que très peu ont été tenues. Je crois que le fait de faire un bilan est toujours important. Et je crois que parfois dans notre vie spirituelle, nous arrêter pour faire un bilan et pour faire un examen de nous-mêmes, de notre relation avec Dieu, est même capital. Frères et sœurs, en ce début d'année, prenez le temps d'un bilan. Prenez le temps d'un examen. Prenez le temps de vous examiner vous-même. Et j'aimerais vous dire qu'avant de vous dire de le faire, je l'ai déjà fait parce que le Seigneur m'a interpellé. Alors qu'est-ce que c'est que faire un examen? Si vous prenez une définition comme ça, littérale dans le dictionnaire, c'est l'action de considérer et d'observer avec attention. Il y a trois étapes. Une étape où l'on apprécie, c'est-à-dire on fait une estimation de la situation, une critique au bon sens et dans le bon sens du terme. Un deuxième pas, c'est un constat, on fait le constat où on en est. Et puis, on fait une vérification, pourquoi en suis-je là aujourd'hui? L'examen, bien sûr, n'est pas destiné à vous décourager. L'examen est destiné à vous aider, eh bien, à faire le point, à prendre de bonnes décisions, pour que l'année prochaine, à la même époque, vous n'ayez pas de regrets, mais que vous puissiez vous réjouir en disant « Je suis plus proche dans ma communion avec Dieu que je ne l'étais en début d'année. » C'est pour cela qu'un examen de notre conscience, de notre foi, est important. Juger notre fonctionnement, nous juger nous-mêmes en nous interrogeant sur nos motivations, nos actions, c'est pas facile. C'est pas facile, cela demande de l'humilité. Cela demande beaucoup d'honnêteté. Et cela demande également du courage. C'est-à-dire le fait de persévérer, même dans la difficulté. Humilité, honnêteté. Vous savez, lorsqu'on met parfois au jour dans nos vies certaines choses, la première tendance que nous avons, c'est eh bien celle de nous trouver des excuses. Vous peut-être pas, mais moi je suis comme ça. Les internautes ne sont certainement pas comme moi, mais dès qu'on met au jour dans ma vie quelque chose qui ne va pas, eh bien je cherche toujours à expliquer pourquoi j'ai agi comme ça et quelles sont les raisons qui m'ont amené à ne pas arriver plus loin que ce que je ne suis aujourd'hui. Ça demande donc de l'honnêteté et ça demande du courage. Notre tendance naturelle, frères et sœurs, notre tendance naturelle n'est pas de faire une autocritique, mais de critiquer automatiquement les autres. Allô ? Non, pas vous, moi. Pendant que je préparais ce message, cette petite phrase m'est venue. Ta tendance naturelle, Seigneur, Samuel, c'est pas de faire une autocritique, mais de critiquer automatiquement. Et ça, Jésus le savait. Et c'est pourquoi il dira dans Matthieu 7, verset 5, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Vous allez me dire, ça commence bien ce premier culte. Pour un bon départ dans cette nouvelle année, ça commence bien. Frères et sœurs, j'aimerais vous partager uniquement ce que l'Esprit a mis sur mon cœur. Et je vous assure qu'avant de vous interpeller et de nous interpeller, j'ai passé moi-même cet examen de conscience devant Dieu. Alors comment évaluer notre marche avec Dieu? Je me suis rendu compte que lorsqu'un docteur établit un diagnostic, avant d'établir son diagnostic, il pose souvent des questions au patient. Il lui demande de s'exprimer, ce qui lui permet déjà d'avoir quelques indications, même s'il ne doit pas forcément toujours se fier aux indications qui lui sont données. Mais il va poser quelques questions. Et ce matin, frères et sœurs, le patient, c'est moi. Le patient, c'est toi. Mais le patient, ce sera pas ton voisin. Je voudrais pas que ce matin, un seul puisse dire, eh bien, ça, c'est super ce qu'il a dit. Parce qu'alors, Joseph, il en a pris, mais plein la figure. Je voudrais qu'aucun ne finisse ce culte en se disant, ah, Seigneur, merci pour cette mise au point. Ils avaient besoin de l'entendre. Les autres, bien sûr. Le patient, c'est vous. Le patient, c'est moi. Le patient, c'est nous tous ensemble. Alors, je vais poser 5 questions. Elles sont basiques à la vie chrétienne. Elles sont des plus simples. La première, pourquoi est-ce que je prie? C'est quand que vous vous êtes posé la dernière fois cette question? Pourquoi est-ce que je prie? Vous l'êtes-vous au moins déjà une fois posé? Deuxième question, pourquoi est-ce que je lis la Bible? Vous êtes-vous déjà arrêté et avez-vous déjà pris le temps de vous poser la question, pourquoi vous faisiez ce que vous faites? Pourquoi est-ce que je loue? Pourquoi, et ce sera ma quatrième question, est-ce que je témoigne? Et je terminerai en posant une dernière question, pourquoi est-ce que je viens à l'église? Elles semblent tellement simplistes, mes questions. Et pourtant, nous ne nous les posons quasiment jamais. Nous ne prenons jamais le temps de nous arrêter et de nous poser la question pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Alors évidemment, dans la tête de plusieurs, il y a une réponse évidente. Je prie parce que je suis chrétien. Je prie pour faire connaître mes besoins à Dieu, comme l'apôtre Paul l'indique aux Philippiens. Je prie, etc., pour ceci et pour cela. Évidemment, il y a un tas de questions qui semblent évidentes. Ceci dit, Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait le bilan de ma propre vie. Et je me suis rendu compte, et j'ai dû constater, frères et sœurs, que dans ma vie, petit à petit, j'ai fait des choses qui en elles-mêmes sont très bonnes. Prier est très bien, lire la Bible est très bien, louer l'est encore, l'est également, et je dirais pas encore plus, l'est également. Témoigner, c'est très bien, et puis venir à l'église, c'est très bien. Ceci dit, je me suis rendu compte avec le temps que je les ai faites par habitude. Alors que nous ayons l'habitude de faire ces choses, ça, je vous en félicite, mais que nous fassions toutes ces choses par habitude, ça c'est dangereux. Et je vais vous montrer que c'est dangereux. Et je vais vous démontrer que l'on peut prier et lire la Bible tout en étant loin de Dieu, en se trompant soi-même. Ne criez pas trop fort, amen, et si vous avez des amen, gardez-les aujourd'hui pour vous. Quand je parlais des habitudes, vous voyez qu'il y en a certaines qui sont bien inscrites dans le fonctionnement que nous avons. Revenir à la source même de la raison qui nous motive à faire ce que nous faisons est capital pour la suite de votre vie avec Christ. S'arrêter et faire le bilan est capital avant de recommencer une année nouvelle qui est devant nous. Pourquoi est-ce que je prie? Comme je l'ai dit, parce que Jésus nous invite à prier, parce qu'il nous enseigne à prier, mais mon attention a été attirée sur une déclaration du Seigneur que vous connaissez tous, mais que nous avons toujours pris pour les autres, mais pas pour nous. En priant, dira Christ, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand nous lisons cela, nous pensons aux prières répétitives faites dans certains milieux, nous pensons aux moulins à prières, nous pensons aux chapelets qui sont égrenés, quelle que soit la religion, mais nous ne pensons pas à nous. Pourtant, Jésus s'adresse là à ses disciples. En d'autres mots, il est en train de leur dire qu'ils peuvent eux aussi tomber dans le piège de prier en multipliant de vaines paroles, c'est-à-dire en radotant dans la prière, c'est-à-dire en priant, en disant un tas de choses et en ayant le sentiment profond, après avoir passé un temps à dire beaucoup de choses, que nous avons accompli notre devoir. Mes frères et sœurs, la prière, ce n'est pas cela. C'est même loin d'être cela. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier et pendant que vous priez, vous pensiez à autre chose et tout d'un coup, vous saviez même plus de quoi vous étiez en train de parler au Seigneur? Hello. T'es dans ton temps de prière et tout d'un coup, ben ton esprit se promène, mais tu continues à débiter. Et quand tu reviens à ce que tu étais en train de dire, tu te dis, mais qu'est-ce que j'étais en train de lui dire? Nous prions et nous sommes en danger de prier machinalement. De prier et de débiter des mots et des phrases sans plus tenir compte du moment que nous sommes en train de vivre. Si dans le temps de prière, je ne rentre pas en communion avec Dieu, et si ce moment de prière n'est pas un vrai dialogue, alors je n'aurai fait que de radoter. Mais ça, ce n'est pas prier. On peut donc avoir le sentiment d'avoir prié, on peut même avoir un rythme de vie dans lequel la prière s'inscrit, mais tous les jours on répète les mêmes choses comme un moulin à prière. Et on s'étonne du fait que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la conscience de la présence de Dieu, de la sainteté de ce moment-là. Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mon frère, ma sœur, le temps de prière est un temps solennel. C'est un temps dans lequel Dieu est réellement présent. C'est un temps dans lequel Dieu te regarde dans le secret de ta chambre. Certains me disent, ah mes frères, vous savez, moi j'ai pas le temps, je prie en voiture, je prie sous la douche. J'ai pas dit que c'est pas bien de prier en voiture, j'ai pas dit que c'est pas bien de prier sous la douche, mais comment pouvez-vous vraiment prier dans la voiture, tout en gardant les yeux ouverts, en regardant le feu rouge et en écrasant pas le piéton qui est en train de passer et de traverser la route? Comment pouvez-vous être vraiment en communion? Sinon Jésus aurait dit, mais quand tu pries, monte sur ton cheval ou sur ton mulet à l'époque. Et là, pendant que tu voyages sur ton mulet, eh bien, fais tes prières à Dieu. Non ! La prière est un temps que je vais prendre à part. Pourquoi ? Parce que c'est un temps particulier pour lui. C'est un temps dans lequel je vais avoir conscience de sa présence, car Dieu te voit dans le secret. Mon frère, ma sœur, notre attitude traduit le sérieux avec lequel nous entrons dans sa présence. Je me suis rendu compte d'une chose. Et je vous partage ce matin ce que l'Esprit a mis sur mon cœur. Nous avons tellement voulu faire de Dieu un papa. Nous avons tellement voulu faire de Dieu quasiment un copain. Que nous nous comportons comme des copains avec Dieu. Mais quand je lis le livre de l'Apocalypse, mais quand je regarde les visions qu'a eu Ézéchiel, Jérémie et d'autres, quand je vois la grandeur de l'Éternel, quand je vois la solennité, quand je vois avec quel respect on s'approchait de lui dans le Saint des Saints une fois par année, quand je vois que le tabernacle était constitué non seulement d'un coffre d'or mais de chérubins qui couvraient avec les ailes, je me dis, quelle sainteté! Ça ne laisse pas de place à la bêtise. Ça ne laisse pas de place à la légèreté. Pas de place à un manque de sérieux. Il y a là une profondeur qui nous est exprimée au travers de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, si vous deviez avoir un rendez-vous avec un personnage important, quelle est votre attitude? Vous vous y préparez. Et c'est avec respect que vous allez vous approcher de lui. Et c'est avec respect que vous allez lui parler. J'ai parfois le sentiment que nous avons perdu le respect de la présence de Dieu. Et si nous perdons le respect de sa présence, nous perdrons sa présence tout court. Et quand sa présence ne sera plus là, cela vaudra plus la peine de nous réunir. Que sert-il de prier si Dieu ne nous entend plus? Que sert-il d'élever nos voix si nos voix ne sont plus entendues? Lorsque nous rencontrons une personnalité, oui, nous nous préparons. Eh bien, j'aimerais vous dire, quand vous priez seul dans votre chambre, le Créateur de l'univers vous regarde. Le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs vous regarde. Celui qui s'est donné pour moi la croix est présent. Le Saint-Esprit est présent. Nous sommes appelés à entrer en communion avec lui et non pas à radoter. Pourquoi prions-nous? Parce que c'est notre habitude, parce que c'est notre fonctionnement religieux, parce qu'aujourd'hui, nous avons été éduqués de cette manière-là et nous avons ce rythme-là. Mais nos cœurs sont loin de lui et c'est possible. Regardez le reproche que Jésus fait en rappelant une parole d'Ésaïe. Il leur dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous pouvons honorer Dieu des lèvres et avoir un cœur qui est loin de lui. Nous pouvons entrer dans notre chambre pour prier et pourtant mener une vie qui le déshonore. Nous pouvons entrer dans notre chambre pour le prier et pourtant faire la démonstration dans notre vie journalière et bien de l'indifférence que nous avons à l'égard de tout ce qu'il nous dit dans sa parole. Mon frère, ma sœur, pourquoi pries-tu ce matin? Et quand tu pries, as-tu conscience de ce que tu fais? Saisis-tu la sainteté? Saisis-tu l'importance du moment que tu passes? Tu as un entretien avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Si demain l'un d'entre nous devait rencontrer le président de la République, je suis sûr, mais je suis sûr que vous vous prépariez. Je suis sûr que vous prendriez beaucoup, beaucoup de temps pour vous préparer. Ce n'est pas un président que vous rencontrez, c'est le roi des rois. Qu'à lui seul soit la gloire dans l'attitude que nous avons lorsque nous prions. Pourquoi, deuxième question, est-ce que je lis la Bible? Vous me suivez encore? Ça va? Le but, ce n'est pas de vous abattre. Hein, le but, ce n'est pas de vous décourager. Le but, c'est que nous nous posions des questions pour que, enfin, nous sachions pourquoi nous faisons les choses que nous faisons et que nous les fassions de manière à ce que Dieu soit honoré. Amen. Eh bien, je dirais que comme pour la prière, avoir l'habitude de le lire la Bible, c'est une bonne chose, mais la lire par habitude peut être dangereux. Vous avez déjà remarqué? On peut lire la Bible par habitude? Parce que c'est comme ça. Et puis en même temps, allez, soyons honnêtes, ça calme notre conscience. N'avez jamais lu la Bible pour calmer votre conscience? Le sentiment de ne pas avoir fait le devoir, vous savez, le devoir chrétien. Puisque le pasteur dit tous les dimanches, il faut lire sa Bible. Alors on va la lire. Mais c'est parfois remarquable. Vous avez fermé la Bible, si 5 minutes après je devais vous interroger sur ce que vous avez lu, je ne sais plus. Ah oui! Moi et vous, nous pourrons dire, j'ai lu la Bible, mais qu'en ai-je tiré? Me suis-je préparé à lire ce que Dieu a à me dire? Parce qu'autant que je sache, c'est Dieu qui parle au travers de sa parole. Ou bien, si c'est pas Dieu qui parle, pourquoi vous la lisez? C'est Dieu qui parle au travers de sa parole. Et nous faisons donc les choses au rythme de nos habitudes, sans plus mesurer la raison pour laquelle nous les faisons et sans plus mesurer l'impact qu'elles peuvent avoir dans notre vie. Ce qui vous explique que vous avez des croyants qui lisent tous les jours la Bible, mais ça ne les empêche pas d'être vulgaires, d'être menteurs, d'être voleurs, de faire l'autocritique, pas la leur, celle des autres, de juger en voyant la paille dans l'œil du prochain. Pourquoi? Parce que jamais, jamais cette parole ne s'applique. Ils sont comme les canards, toujours dans l'eau, jamais mouillés. Comme la pierre au fond du torrent, couverte par l'eau, brisez-la en deux, elle est sèche. À force de lire la Bible sans la laisser m'interpeller, je m'endurcis par rapport à ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit ne me touche plus. Regardez ce qu'elle doit produire. Jacques dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Voilà à quoi ressemble un homme. J'aimerais vous rassurer mes sœurs, également une femme. Qui lit et qui oublie. Nous lisons et nous mangeons parfois des chapitres entiers. On a même la Bible en un an. Je suis pas contre, je suis pour. Mais si le but c'est juste de l'avoir lu en un an, alors arrête. Lis-la en 10 ans, mais fais ce que tu lis. Je préfère quelqu'un qui a lu sa Bible qu'une fois en 10 ans et qui fait ce qu'il lit que quelqu'un qui l'a lu 10 fois en 10 ans, mais qui ne fait pas ce qu'il a lu. Hello. Ah, vous pensez que j'ai fêté Noël avec des cornichons aigres, hein? Eh bien non. Non, c'était très bon. Mais l'examen, c'est aussi ça. C'est aussi avoir peut-être parfois le courage de se dire les choses. Béni soit Dieu pour tous ceux qui ne sont pas concernés. Et si ce matin, 99% ne sont pas concernés, je suis le seul, eh bien priez pour moi. Mais c'est pas sûr que je sois le seul. Jésus, interpellant la foule qui suivait, leur dit, « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» L'autre jour, quelqu'un m'interpellait, et nous parlions ensemble de tout ce que la Bible dit, qu'on ne comprend pas, et je lui ai simplement répondu, « Ne nous inquiétons pas pour tout ce que nous lisons et que nous ne comprenons pas. Soyons plutôt inquiets pour tout ce que nous avons compris et que nous ne faisons pas. » Ça devrait nous inquiéter. Jésus dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Frères et sœurs, si la parole ne s'enracine pas en nous, nous sommes des chrétiens sans racines. Quand la tempête viendra, elle nous emportera. Plus les temps avanceront, vous savez, on se souhaite toujours une bonne année 2008. Et on se souhaite les plus belles des choses. Mais j'aimerais vous dire que la terre va aller de mal en pis et pas de mieux en mieux. Je ne sais pas moi qui le dis, c'est la Bible qui me le dit. C'est la Bible qui me dit. Je sais qu'une chose, c'est que l'iniquité va augmenter. Le péché va augmenter. Seuls les croyants enracinés vont tenir. Les autres seront emportés. Et il est de mon devoir, en tant que berger, de nous rappeler, en commençant par moi-même, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, nous imaginer que ça ira de mieux en mieux, c'est nous tromper nous-mêmes. Parce qu'il faut que les prophéties s'accomplissent. Il faut que les choses arrivent, et elles arriveront certainement. Mais j'aime vous dire que Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, aussi mauvaises soient-elles, réjouissez-vous. Car cela signifie que son retour est proche. Mon frère, comment lis-tu la parole? T'interpelle-t-elle encore? T'arrête-t-elle sur ton chemin? Te change-t-elle? J'entends souvent les frères et sœurs venir me voir en me disant, « Bien moi aussi, je voudrais entendre Dieu me parler. » Ouvre ta Bible, il parle tous les jours. Le problème, c'est de l'écouter. Alors on voudrait des voix qui viennent du ciel, comme Saul de Tarse. On voudrait presque tomber... du cheval, enfin aujourd'hui c'est de la moto ou Priscilla du scooter. On voudrait vraiment qu'il y ait une... Mais pourquoi viendrait-il nous parler comme cela si nous n'écoutons pas déjà ce qu'il nous dit dans sa parole? Il est dit dans Hébreux, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors soyons comme Samuel. L'Éternel était avec lui, il grandissait et ne laissa tomber aucune de ses paroles à terre. Aucune. Ce matin, mon frère, ma sœur, où en es-tu face à cette question? Pourquoi est-ce que je lis la Bible? La lis-tu parce que tu es simplement chrétien et qu'il faut lire la Bible? Ça fait partie du programme? Alors arrête-toi, ça ne sert à rien. La lis-tu parce que tu sais que Dieu te parle et qu'au travers de cette dernière, ton intelligence est renouvelée et donc tes actions et tes motivations également? Alors prends du temps et médite-la. Veux-tu la lire une fois en un an, deux fois en un an, trois fois en un an? Fais-le, mais mets en pratique ce que le Saint-Esprit te montre. Ne passe pas au-dessus de ce qu'il t'indique. Puis-je continuer? Oui, c'est le seul moment où vous pouvez dire Amen. Maintenant, vous avez peur, hein? Et d'ailleurs, on ne sait plus quand dire Amen, Alléluia, on ne sait plus comment faire. En parlant de la Bible, et je termine par là, vous savez, souvent, j'ai entendu des disputes de théologiens sur les meilleures interprétations de la Bible et les meilleures traductions de la Bible. Et c'était un jour, trois personnes qui étaient ensemble. La première disait, moi j'aime Louis II. Moi j'aime Louis de Gunzbach. Puis l'autre dit, moi j'aime le Shannon crampon. On arrive bien à se cramponner à ce qu'il dit. Et puis la troisième dit, ah non, moi j'aime la version de ma mère. Ah bon, parce que ta mère, elle a traduit la Bible. Il dit, non, mais elle la vit chaque jour. Vivez-la, vivons-la. Ce sera la meilleure traduction que nous pouvons donner à notre entourage. Troisième question, pourquoi est-ce que je loue? Ah ben, je loue pour remercier Dieu, frère. C'est bien. Mais est-ce que nous ne louons pas beaucoup plus souvent parce que la louange fait partie de cette espèce de liturgie évangélique? On va arriver, on sait qu'on va faire 3-4 chants vivants, après on va faire des chants plus lents. Pourquoi je loue? Pourquoi je chante? Pourquoi je fais comme les autres? Pourquoi je fais avec eux? C'est dans le programme du culte, frère. On aime! Et puis en plus de ça, c'est agréable. Il y a de bons musiciens. Est-ce qu'il n'y a pas de bons musiciens? Bah, applaudissez-les, ça va leur faire du bien. Moi, je les applaudis avec vous. Ils travaillent régulièrement, j'aimerais vous le dire. D'ailleurs, les musiciens, vous vous retrouverez demain soir pour une soirée de louange. Mais la question revient, pourquoi est-ce que je loue? Permettez-moi pendant un instant de jeter un regard dans le ciel pour voir ce qui se passe quand il y a la louange dans le ciel. Quand il eut pris le livre, Apocalypse 5, versets 8 à 14, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Quelle sainteté! Quelle sainteté se dégage de ce texte! Quel profond respect de l'agneau sur le trône. Quelle présence! Quelle attitude honorant celui qui est adoré! Quelle profondeur dans la dévotion! Quelle profondeur dans l'adoration! Quel sérieux! C'est pas une foule qui chante les mains dans les poches. À toi la gloire, au ressuscité. Au fait, tu sais que tout à l'heure, on va boire un pot. Frères et sœurs, je suis très sérieux quand je dis là. On est loin de la superficialité dans laquelle parfois est plongée l'Église. Des chants qu'on chante sans même réfléchir à ce qu'on chante. On élève parfois nos voix. Mais pourquoi? Parfois, c'est parfois même un concours de chant. Oh, Jésus! Et on regarde si le voisin regarde et s'il a entendu qu'on chante bien. Hein? Non, il a les yeux fermés. On est frustré. Le centre de la louange, le centre de l'adoration, ce n'est pas la musique et les chants, mais c'est l'agneau sur le trône. Ça, c'est le centre. La musique et le chant ne sont que le moyen de nous emmener devant le trône et de nous prosterner devant lui. Il ne s'agit de ne rien négliger, mais ne nous trompons pas quant à ce qui est l'essentiel. L'essentiel, mon frère, l'essentiel, ma sœur, c'est l'agneau sur le trône. L'essentiel, c'est mon cœur qui s'est préparé à rencontrer l'agneau sur le trône. Et j'aimerais te dire que ta louange le dimanche matin et ton adoration devraient être la gerbe de la louange et de l'adoration que tu as élevée tout au long de la semaine vers ton Dieu. Cela devrait être la gerbe. Cela devrait être le feu d'artifice le dimanche matin, dans lequel nous élevons nos voix en cœur. Et nos voix élevées sont des voix connues de Dieu. Le Seigneur n'est pas en train de se dire le dimanche matin, tiens, une nouvelle. Je l'ai jamais entendue, celle-là. Tiens, un nouveau. Non, le Seigneur se réjouit en se disant, mon peuple est réuni. Et il m'adore comme il le fait tout au long de la semaine lorsqu'il est chez lui. La louange et l'adoration sont un moment saint. Et notre attitude, eh bien, doit être une attitude sainte, respectueuse. Ça n'enlève rien à la fraternité, ça n'enlève rien à l'amour les uns pour les autres, ça n'enlève rien à la joie. Vous croyez que dans le ciel, ils adorent tristement ? Ils adorent de manière joyeuse. C'est beau l'adoration dans le ciel. Je ne veux pas que nous fabriquions une forme de solennité qui ne serait qu'artificielle. Parfois, on aurait tendance à vouloir fabriquer une solennité. Quand on rentre, faut se taire, faut ceci, faut cela. Il y a d'ailleurs des bâtiments qui existent, qui sont tellement grands, tellement impressionnants, que quand on rentre, on se sent écrasé, alors on se tait. Mais ça, ce n'est pas le recueillement. Ça ne veut pas dire pour autant que dans ton cœur, tu es prêt. Mais quand tu es dans l'adoration, je suis parfois surpris d'être dans l'adoration, puis vous avez des gens qui parlent les uns aux autres. On ne sait pas. Frères et sœurs, ce n'est pas le rassemblement des copains, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. C'est le rassemblement des saints qui louent avec les anges. Car j'espère que vous avez bien compris que chaque fois que nous louons, le ciel est réuni avec nous. Vous savez qu'au moment où nous adorons, le ciel est avec nous. Les anges louent avec nous. Les chorales célestes louent avec nous. Les myriades louent avec nous. Attention au feu étranger. Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, avaient une attitude qui déplaisait à l'Éternel. Il est dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. » Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Leur attitude rendra mon nom saint. Leur comportement rendra mon nom saint. La profondeur de leur adoration, le sérieux, la conscience de ma présence rendra mon nom saint. J'ai peur parfois qu'avec notre légèreté, nous amenions des feux étrangers sur l'autel de l'Éternel. C'est sérieux, frères et sœurs. Ce fut sérieux pour ces deux hommes. C'est sérieux pour nous. Ce matin, quelle est notre attitude ? Hébreux 13, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Par lui, Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Vous êtes-vous préparé à venir ce matin dans ce temps de louange ? Avez-vous pris du temps sur la route pour préparer vos cœurs? Avez-vous pris le temps, par exemple, de vous lever une demi-heure plus tôt pour vous mettre devant Dieu et lui dire « Je prépare déjà mon cœur à ta rencontre ». Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le film a duré jusqu'à minuit et demi hier soir, vous étiez fatigué. Aïe, 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 ça c'est embêtant. Ah non, c'est pas possible parce que le Racing Strasbourg a joué, il y a eu les prolongations. Préparez notre cœur. Frères et sœurs, relisons la parole de Dieu. Regardez avec quel sérieux les sacrificateurs servaient dans la maison d'Éternel. Regardez avec quelle profondeur. Et vous verrez combien, si nous le faisons, la gloire de Dieu se manifestera encore autrement. Nous sommes toujours là à prier. Plus de ta présence, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Elle est rattachée à notre attitude. Même si tout n'est que grâce, Dieu nous éduque et nous rappelle qu'il est Dieu. Pourquoi est-ce que je témoigne? Deux points et j'ai terminé. Dans mon expérience personnelle, le témoignage est quelque chose d'important, de profond. J'ai parfois passé des heures à genoux pour prier pour les perdus, prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. J'ai ressenti dans mes entrailles ce que pouvait signifier le départ d'une âme dans l'éternité pour l'enfer. Je l'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et je peux vous dire que passer des heures à prier pour mes voisins n'était pas difficile, mais je me suis rendu compte qu'avec le temps qui passe, avec le temps qui passe et les habitudes qui s'installent, eh bien j'étais devenu moi aussi un témoin qui parlait machinalement. Mes propos étaient presque ceux d'un commercial qui vendait son produit. Je vous fais là une confession. J'étais presque devenu un commercial de la religion, un commercial de Jésus. J'avais dans ma tête différents arguments, je les connaissais bien, je les maîtrisais bien, et quand quelqu'un arrivait, eh bien je les lui alignais les uns après les autres. Mais il n'y avait plus de compassion dans mon cœur pour ceux à qui je parlais. Je ne le faisais plus parce que je les aimais. Je les faisais parce que, eh bien, il faut témoigner. Je ne sentais plus la détresse qui pourrait être la leur s'ils devaient partir dans l'éternité comme ils sont. Je ne me souvenais plus de l'amour qui avait motivé Jésus à venir mourir pour nous perdus afin de nous sauver. Ah, j'étais peut-être comme certains le sont, plutôt là à avoir des batailles d'arguments. Puis j'étais content quand j'avais gagné la bataille. Et je me disais en partant, ben Seigneur, celui-là, je lui ai dit, hein. Oui, mais rien n'a changé pour lui. Je suis parti fier parce que j'ai réussi à le mettre devant le pied du mur. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Comme si l'Esprit me disait, tu ferais mieux de parler moins et d'aimer plus. Et quand tu parles, si tu dis peu de choses, mais dis-le en les aimant. Dis-le en leur montrant que c'est avec tes tripes que tu es venu leur parler. Dis-leur avec tout ton cœur. Parfois, nous avons le sentiment d'évangéliser pour ajouter des membres à l'Église que nous épinglerions sur notre tableau de chasse comme des trophées. Celui-là, c'est moi qui l'ai emmené. Vous n'avez jamais entendu ça? Ah, celui-là, c'est grâce à moi qu'il est venu au Seigneur. Hein? Malheureux que nous sommes. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, alors ni vous et moi ne pouvons emmener une seule âme au Seigneur. Parce que si nous faisions les choses comme ça, nous ne deviendrons qu'une secte qui fait entrer de nouveaux membres dans son groupe. Et je refuse d'être une secte, dans le sens péjoratif du terme. Mais je veux de tout cœur que nous soyons une église de croyants, d'hommes et de femmes, qui sont mus par une seule chose, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à parler de lui. qui se souviennent que c'est parce que Jésus est mort. Et j'aimerais ce matin dire quelque chose à tous ceux qui nous aident à diffuser l'évangile dans ce lieu. Je m'adresse aux techniciens. Chers frères, chères sœurs, où que tu sois, que tu reproduises des DVD, des CD, que tu fasses des cassettes, que tu sois en train de filmer, que vous soyez là au poste internet. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Si vous le faites juste pour rendre service, vous risquez de tomber dans le piège où, tout d'un coup, ce que vous faites est plus important que l'objectif pour lequel vous le faites. Gardons, chacun d'entre nous et moi le premier, à en mémoire que le plus important, c'est l'objectif pour lequel je fais ces choses. Vous savez que je me suis surpris, je vais vous faire une deuxième confession ce matin. Vous savez que j'aime être vrai avec vous. Mais je me suis surpris parfois à attendre de la part de mes frères combien de personnes étaient sur Internet. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était le chiffre. Je le confesse devant Dieu et je lui ai déjà demandé pardon. Tout d'un coup, je me suis rendu compte. Mais Sam, pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui te motive? Je me suis rendu compte tout d'un coup que le chiffre était devenu important, alors que Jésus s'arrêtait pour une Samaritaine. Je me suis rendu compte que, soudain, derrière chaque écran, chers amis, je sais qu'il y a un homme, une femme, des enfants, des vieilles personnes précieuses pour qui Jésus est mort. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce qui m'intéresse, c'est pas combien vous êtes, mais c'est que Jésus vous ait sauvé. C'est que Jésus vous aide à avancer. C'est que vous vous construisiez dans votre foi, que vous deveniez fort en lui, que ce soit là, que ce soit à la télévision, que ce soit dans cette salle. Mes frères, mes sœurs, je ne vois pas 2000 personnes ce matin, mais je vois un frère, plus une sœur, plus un frère, plus une sœur, qui chacun d'entre eux sont précieux devant Dieu. Un jour, alors que j'avais été interpellé par une famille qui avait perdu un enfant, la tendance était de dire, oui, mais ils en ont encore quatre autres. Ils en ont encore quatre autres. Et soudain dans ma tête, je me suis dit, mais Sam, si tu perdais un de tes gosses, est-ce que le discours, eh bien frère, tu sais, il est parti, mais tu en as encore cinq, est-ce que ça te satisferait? Et j'ai réalisé tout d'un coup que non, ça ne peut pas me satisfaire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas six enfants, mais j'ai un enfant unique, plus un autre enfant unique. Plus un troisième enfant unique, plus un quatrième, plus un cinquième, plus un sixième enfant unique. Et ils sont tous uniques. Et si j'en perdais un, je perdrais mon fils unique. Et il en va de même. Vous n'êtes pas 2000. Vous êtes chaque fois un frère sauvé par grâce. Mon frère, une sœur sauvée par grâce. Ma sœur. Et je veux qu'ensemble, nous puissions glorifier le Seigneur. Et je veux qu'ensemble, nous puissions avancer, non pas perdus dans une foule de gens. Je n'aurai peut-être pas l'occasion de parler toujours avec tout le monde, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que dans mon cœur soient inscrits les uns et les autres, et que je puisse vous apporter devant le trône de Dieu. De la raison qui motive votre acte dépend la qualité des actions que vous ferez. Quoi que vous fassiez, si vous restez conscient que tout ce que vous le faites parce que vous annoncez le roi des rois pour le salut d'hommes et de femmes qui sont perdus, vous le ferez avec joie, avec passion, avec amour, sans vous décourager. Je termine. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? C'est une bonne question, non? Certains se disent, ce matin, je me demande bien pourquoi je suis venu. En arrivant, j'étais tranquille. En arrivant, j'étais paisible. Je me demande bien pourquoi je suis venu. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, parce que Christ est venu bâtir son église, parce que là où deux ou trois sont réunis, etc. Nous savons tous ces choses, mais sommes-nous conscients, comme le dit le psaume 133, que là où des frères demeure ensemble, l'Éternel envoie sa bénédiction. En d'autres mots, là où des hommes et des femmes sont ensemble, l'Éternel est au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu de vous. L'habitude de venir dans un lieu peut nous rendre imperméables au lieu où nous sommes. L'habitude peut même nous emmener à avoir un comportement qui n'est plus digne du comportement que l'on doit avoir dans sa maison. Je ne vous dis pas que ces murs sont saints. Je ne vous dis pas que la moquette est sainte. Je vous dis que celui qui est au milieu de nous est saint. Et c'est à cause de lui que tout en nous doit le glorifier. Tout en nous doit l'honorer. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, avaient oublié ça. Ils étaient sacrificateurs pourtant. Et tout en étant sacrificateurs, la Bible disait qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Parce qu'on peut être sacrificateur d'étiquette et ne pas connaître l'Éternel. Qu'est-ce que ça va engendrer? Écoutez, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et Élie, fort âgé, était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Venons-nous à l'église par habitude? Venons-nous à l'église parce que c'est dimanche matin, je suis chrétien. Alors c'est pas bien si je reste à la maison. Ou venons-nous parce que nous avons rendez-vous avec le roi des rois, le Dieu très saint et son peuple? De la prise de conscience de la sainteté, du rassemblement de l'église, découlera aussi notre attitude et notre comportement. Ce profond respect devant Dieu. Et j'aimerais dire cela, ce sont mes derniers mots. On a toujours le sentiment que conjuguer sainteté, convivialité et joie, c'est impossible. Moi, je me réjouis quand les frères sont joyeux. Je me réjouis quand on s'embrasse, les accolades. Je me réjouis, j'aime ça. C'est bon signe. Mais ces choses-là ne doivent pas nous faire oublier la sainteté de Dieu. Ces choses-là ne doivent pas nous amener à nous comporter tout d'un coup comme si nous étions dans un club et que nous assistons à une parade ou à un show. Chacun de nous individuellement a rendez-vous avec l'Éternel dans ce lieu lorsqu'il y pénètre. À partir de ce moment-là, le centre, c'est l'agneau sur le trône. Fermons nos yeux un instant. Que nos rassemblements, frères et sœurs, soient dignes de notre héritage. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, c'est-à-dire sentiment d'affection et de respect. Pourrais-je redire ça? C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, ça c'est ce que nous allons recevoir. Montrons à l'égard de ce que nous allons recevoir notre reconnaissance, comment? En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, c'est-à-dire un sentiment d'affection et de respect profond et avec crainte. Pendant que mon frère simplement joue Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées en dos, j'aimerais vous dire que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 24. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Thessaloniciens 3, verset 5. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude, chapitre 1, verset 21. Frères et sœurs, pour cette année 2008, continuons à garder de bonnes habitudes, mais de grâce, n'agissons pas par habitude. Que le premier amour soit toujours la flamme qui anime tous nos actes. Pourrions-nous nous lever ensemble, chanter Saint, 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 et je vous demanderai de ne pas quitter ce lieu, d'avoir encore 2 minutes d'attention. J'ai des informations et une information particulièrement importante. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu.
armées. Ça, est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Le Dieu des armées. Dieu des armées, mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur, ce lieu. Est rempli de sa gloire, ce lieu est rempli de sa gloire, ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Et lui, je voudrais qu'on l'acclame, lui seul. Saint.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.